Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire La tragédie de la Terre de Sophocle à Sri Aurobindo, écrit par Satprem, l'éditeur français Robert Laffont. Alors je vous lis La victoire sur la matière. C'est-à-dire le chapitre s'appelle Le mystère. Depuis ce jour de 1982, où nous avons tenté de suivre les pas de Sri Aurobindo et de Mère, nous sommes devant un mystère, comme il n'y en a eu certainement pas eu depuis des âges. Souvent, nous pensons à ce petit phoque sur sa plage blanche avec des yeux si étrangement muet et plein, mais nous sommes à l'autre bout de ce long temps, et tout aussi mystérieux et plein de quelque chose comme si l'on n'avait jamais rien appris, sauf un vieux et long temps qui palpite dans un corps. Et une question, une immense question. L'histoire, nous la connaissons. Elle a bâti le corps. La philosophie, nous la connaissons. Elle a additionné nos misères et nos espoirs. La vie, nous la connaissons. Mais où est, tout au bout de tout cela, comme avec des yeux qui se referment sur eux-mêmes, avec ce même battement, comme si toute l'espèce vivait là, muette et pleine, et soudain basculait dans un corps incompréhensible, dans une loi incompréhensible. Et c'est comme tout l'avenir de notre espèce qui se regarde et se questionne sur la grande plage dangereuse et inconnu. Toutes les habitudes de vivre sont défaites. Même l'habitude de mourir, c'est autre chose, puissamment autre chose, incompréhensiblement autre chose. Et pourtant, notre vieux métier d'homme veut comprendre comment s'est passé cet ultime devoir. Il n'y a rien à transmettre, sauf ce qui est là, dans ce corps d'un million de peines, et qu'il sent aveuglement comme l'espoir, comme l'avenir, comme la possibilité suprême. C'est si impossiblement possible que ce doit être une autre porte. Mais ça s'ouvre tout juste, et où ça va? Une si étrange chose, on ne se lasse pas de l'interroger. On ne se lasse pas de respirer tant que l'on vit. Mais cette autre respiration, il n'y a pas de chimie pour vous la dire, ni de physique, il faut la vivre ou la survivre. Et ce qui nous importe, toutes les lois du monde, puisque ça se vit. C'est comme un impossible qui devient possible. Chaque jour un peu plus, mais ce plus-là est si précaire. On sent bien que ce n'est pas l'affaire d'un spécimen particulier, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une porte pour tout le monde. C'est un nouveau possible pour tout le monde. Et même si ce spécimen particulier ne tient pas le coup de ce grand bouleversement, c'est déclenché, ça ira chercher d'autres corps, peut-être que ça les cherche déjà. En fait, c'est une longue histoire de l'évolution qui commence. Pour ce spécimen particulier, voilà plus de 10 ans que cette autre respiration incroyablement dense a commencé. Et cette écluse ouverte d'en haut n'a pas cessé de déverser sa substance. Et comment l'appeler? Ce formidable souffle écrasant et pourtant fluide. Écrasant? Probablement, parce que le récipient est trop étroit, trop rigide. Et pourtant, ça l'emplit totalement, dans la moindre alvéole. Mais cette éponge est très coriace, du moins dans son ossature et dans ce qui fait une forme séparée des autres formes. Ça ne se volatilise pas, et c'est un miracle pourtant, c'est constamment au bord de ou de la limite. Mais on dirait que chaque jour, la limite du possible est dépassée un peu plus. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais ça ne peut pas s'arrêter, sauf si on éclate. Et cette énergie-là est consciente, suprêmement consciente. Ce n'est pas comme nos trucs mécaniques et cassants. Elle sait la dose supportable. Et ce supportable-là est chaque jour un peu plus dépassé. Qu'est-ce qui va se passer? Le mystère commence avec cette espèce d'obstacle de roc sous les pieds et peut-être tout autour contre lequel infatigablement, impérieusement, presque sauvagement, cette énergie-là vient buter et marteler sans trêve. Non point que ça ne traverse pas ce roc, cet obstacle là-dessous, mais ça s'enfonce de plus en plus durement, et la puissance et la densité grandit avec la résistance. Ça ne supporte pas de résistance, mais ça dose l'opération. Et où ça va? Alors on met des mots, on dit le roc, on dit l'assise ténébreuse, on dit le donjon, on dit les atomes, on dit aussi l'inconscient. Et c'est sans doute le mot le plus juste parce que tout ce qui est conscient s'ouvre instantanément, même ses cellules mortelles. Pas laisse tomber leur vieux manteau de mort comme si ce n'était pas. Et comme toute cette opération, si impossiblement possible, dure jour après jour et ne cesse de grandir en compression et en densité, on se dit, il doit y avoir une illusion quelque part. Il y a une illusion dans ce physique même. Dans cette matérialité même. Mais cette illusion, beaucoup plus puissante que celle qui sépare un spécimen aquatique d'un spécimen terrien. Et en effet, c'est quelque chose qui sépare d'un tout inconnu. Mère s'est beaucoup interrogée sur cette séparation ou sur la nature de cette séparation. Elle la vivait douloureusement dans son corps. Et un jour, vers le début de cette opération, en 1958, lorsqu'elle sortait encore et venait au terrain de jeu où elle donnait le soir une méditation aux disciples assemblés, elle s'est mise à regarder cette espèce d'inertie collective et méditante, si obscure, elle s'est demandé, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans tous ces gens? Et elle a vu l'inconscience. Oui, mais il reste une inexplicable mais. Un peu comme le poisson qui aurait débarqué dans une inexplicable milieu qui se dirait « mais tout de même, il faut que j'ai des pattes pour marcher là-dedans ». On peut dire l'inconscience ceci, l'inconscience cela et le roc et les atomes. On peut dire tout ce que l'on veut, mais le corps dit « je veux marcher ». Il est là, sur sa plage indubitable, à respirer cet air indubitable, mais difficile, et il cherche la solution. Chercher, cela veut dire faire un pas et encore un autre, et chaque jour un peu plus. Et cela fait mal naturellement. Les vieilles nageoires ont des névralgies, mais les pattes à venir ou à faire sont inévitables, ou presque. Presque dire, elles sont déjà accomplies. Puisque le fait accompli et que le corps a débarqué sur cette plage, il n'y a pas de manuel, il n'y a jamais eu de manuel pour le premier pingouin. Il n'y a pas de moyen. Le moyen se crée en marchant. Il n'y a pas de passé, sauf dans nos quêtes savantes. Il n'y a pas de loi, sauf pour les gens qui viennent après. Le passé, il est sous l'eau, et les lois aquatiques ne valent plus rien. Il faut faire des pattes, c'est tout. Le monde du doute et des questions ne se pose pas, n'existe pas pour un corps qui agonise de sa vieille mort et vit quand même de sa vie nouvelle. Ou bien il fait ce pas d'aujourd'hui et de cette minute, ou bien il ne le fait pas. Et il est porté par l'évidence radieuse et douloureuse de cette terre qu'il respire et de ces millions de cellules spongieuses qui savent sans rien savoir. Le mystère, elles le vivent, et c'est totalement divin. La théologie et Newton, c'est pour le fils des brumes. Lui, le corps, il n'est le fils de personne, sauf de cette suprême évidence, c'est le fils du délice qui arrive au bout de ces millions de peines. Les questions et le point d'interrogation, il est pour ce moi mental qui est accompagné, ce vieux corps pendant tant d'années et qui regarde avec un peu d'abrutissement le phénomène qui se déroule. Il regarde cela du dehors, il aimerait beaucoup comprendre parce que c'est son vieux métier. Et il y a d'ailleurs un fait très curieux qui s'est produit des milliers de fois. Il est là à étudier, observer son chaos corporel, minute après minute et seconde après seconde. Et dès qu'il remarque, tiens, ce mouvement-là est meilleur. Meilleur, cela veut dire que ça se fait moins mal, ça passe plus facilement, ou cette position-là est plus favorable. La seconde d'après, tout se fausse. Et s'il essaye de recopier ce qu'il avait observé, alors tout le corps se coagule. Et non seulement le chaos devient plus chaotique, mais quelquefois même, le corps ne sait plus comment on fait pour respirer. C'est instantanément dangereux. Toute intervention mentale est instantanément mortelle, mais physiquement mortelle. C'est-à-dire que l'on pourrait très bien s'écrouler. On retombe dans le vieux système. On est vraiment comme un bébé fragile et si puissant entouré d'un monde mortel. C'est ce qui s'est produit au début de l'opération il y a quelques 10 ans, lorsque cette formidable ruée a commencé à descendre goutte à goutte dans ce vieux corps mental. C'était un assaut, une levée de boucliers de toutes les lois du monde qui venait étrangler son corps, son cœur, comme si c'était une attaque cardiaque. Faire bouillir son cerveau, comme si c'était l'apoplexie imminente. Tout était contre. Tout était là pour lui faire croire que c'était vraiment un assaut de cette inconscience mentale dont parlait Mère. Et puis, ces cellules miraculeuses, radieuses, qui obstinément défaisaient la mort, la vieille mort, illusoire, alors on est comme un ressuscité. Et on comprend aussi pourquoi de pauvres gens condamnés sur leur lit de mort, tout défait de leur croûte mentale, touchent soudain ce miracle-là. Ces cellules pures et simples et s'en remettent miraculeusement. Ils sont guéris de leur mort naturelle qui est la vieille illusion de la vie de tout le monde. Le miracle, voilà des millions d'années qu'ils cherchent à travers notre croûte et nos peines. C'est lui qui a poussé ces millions d'espèces contre vents et marées pour que l'on s'aperçoive de lui. Parce que nous sommes tous dans la nuit agonisante de notre espèce, dans le chaos sordide de nos vieux châteaux, il faudra bien que nous nous apercevions de ce qui est là, sous nos défroques mensongères, ou que nous suivions les lois de la mort. Alors, il nous semble bien que ce roc sous les pieds contre lequel vient buter cette énergie formidable et qu'elle pilonne et pilonne à travers ce vieux système, c'est l'inconscience collective, mentale, mondiale. Il n'y a qu'un corps, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une solution mondiale. Et toutes les forces agressives et coagulées du monde résistent comme du fer. Nous disons les atomes parce que notre vieille éducation nous a appris l'implacable constitution de la matière. Mais cette constitution-là, c'est ce que nous en pensons ou ce qu'en pensent nos microscopes. Et c'est comme nos merveilleuses cellules. On leur enlève le manteau des ténèbres et elles fonctionnent radieusement. Les mêmes cellules, et ce sont ces mêmes atomes, sous presque enveloppés d'un autre manteau de ténèbres, et ils peuvent se révéler aussi perméables, fluides et radieux que ces cellules ressuscitées. Il y a une fausse matière, disait Mère. Ce n'est pas la matière qui est illusoire, c'est une matière vue et vécue à travers un million de formes déformantes, une inconscience, un manteau de plomb. Alors, je termine la victoire sur la matière. In English is a victory in the matter. La tragédie de la Terre, de Sat Prem, de Sophocle à Sri Aurobindo. Alors, je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette merveilleuse lecture qu'est la tragédie de l'être père, qui a été écrite par Satprem. Satprem, qui a été le scribe de Mère concernant les 13 volumes de l'agenda de Mère. Je remercie Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri, Bhavan.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.